Tu écoutes le podcast Culture Générale de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa, en partenariat avec Audencia Business School.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Major Prépa en partenariat avec Audencia Business School qui traite de la mémoire, le thème de Culture Générale 2019 des secondes années. Je me trouve aujourd'hui avec Hélène Janin. Hélène, bonjour.
Bonjour Dimitri.
Hélène Janin, vous êtes sociologue, chercheur au sein d'Orange Lab et vous travaillez notamment sur les problématiques du lien entre le corps et la technologie ainsi que sur l'intelligence artificielle. Seconde partie de ce podcast consacrée au lien entre mémoire et technologie dans lequel vous allez donc nous parler de l'impact des nouvelles technologies sur notre mémoire corporelle et en particulier sur notre gestuelle qui a beaucoup évolué depuis l'arrivée des smartphones dans notre quotidien.
Le fait, pour revenir à cet été de dépendance, qu'on devient dépendance envers nos technologies, on en est dépendant au point de vue relationnel, informationnel, mais aussi au niveau de la gestuelle. C'est-à-dire que le fait de s'en servir aussi souvent, de manière répétitive, va faire en sorte qu'on va introduire dans notre quotidien tout un répertoire de gestes et de nouveaux gestes. Par exemple, glisser son doigt sur l'écran de notre smartphone, par exemple, regarder peut-être une centaine de fois par jour l'écran de nos smartphones, ce sont des nouveaux gestes qui font partie maintenant de notre quotidien. Ces nouveaux gestes vont s'inscrire durablement dans le corps, or le corps est aussi mémoire. Le corps est mémoire et c'est quelque chose qui a été dit de façon très diverse par diverses personnes. Marcel Mauss a commencé par lui, dans les techniques du corps, il revient sur la place centrale de l'habitus dans nos habitudes et dans nos pratiques. Pierre Bourdieu, sociologue, avait après repris cette idée de l'habitus, idée à laquelle il assigne le sens pratique, c'est une capacité d'agir sans réfléchir parce que certaines habitudes gestuelles sont en quelque sorte imprimées de façon durable dans notre corps. C'est ce que Simone de Beauvoir va détailler dans le deuxième sexe, dans un paragraphe très connu qui commence par on ne naît pas femme, on le devient. C'est une intériorisation corporelle de l'action qui a aussi été par exemple décrite par notre contemporain Jean-Claude Kaufmann dans son étude sur l'action ménagère. C'est ce qui avait été dit de façon différente par le philosophe Henri Bergson quand il distinguait pour lui une mémoire de type sensorimotrice gravée dans le corps, mais aussi constitué de souvenirs. Et à côté de ça, il y a des chercheurs en études théâtrales qui ont vraiment insisté sur ce côté d'empreinte mémorielle du geste dans le corps. Par exemple, Jerzy Grotowski, alors je vous cite ce qu'il écrit parce que je trouve que c'est très beau. « La mémoire, dit-il, est toujours une réaction physique. C'est notre peau qui n'a pas oublié, nos yeux qui n'ont pas oublié. Ce que nous avons entendu peut encore résonner en nous. Ce n'est pas que le corps se souvienne, le corps est lui-même mémoire. » Le fait que nos appareils électroniques et numériques soient de plus en plus associés à des gestes et que ces gestes s'incorporent de plus en plus à notre répertoire montrent une intensification des rapports entre les gestes et la machine. Tout ceci n'est pas anodin parce qu'il existe actuellement une branche de la recherche et du développement qui vise à faire en sorte de capturer ces gestuels et de les associer à un individu particulier. Nous avons des gestes qui nous sont propres, des gestes qui sont spécifiques à chaque individu et c'est ça qui est étudié notamment dans le secteur de l'informatique et de la vision par ordinateur. Celle-ci va se tourner vers la détection, vers la prédiction des mouvements et des gestes, particulièrement dans des domaines tels que la sécurité, l'authentification, des stratégies de marketing, le design, les interfaces de communication, éventuellement des opérations militaires. Et ça devient central pour l'automatisation et la prédiction éventuelle de futurs comportements et ce qui pourrait devenir réalisable, notamment avec l'intelligence artificielle, ou en tout cas le fait qu'on pourrait embarquer des bribes d'intelligence artificielle dans ces systèmes en mesure de capturer ces gestes. Tout cela, ça risque aussi de poser des questions éthiques. On a vu dernièrement avec l'histoire du bracelet d'Amazon. Hein. Alors, c'est quoi cette histoire? Amazon a tenté d'introduire des bracelets électroniques au poignet de ses salariés afin notamment de détecter les mouvements des mains dans les entrepôts pour suivre leur travail. Et ce concept a déjà suscité des réactions virulentes, notamment en Italie. Alors, il y a une question qui revient fréquemment en lien avec cette relation entre la technologie et le corps, et la mémoire et le cerveau. Et il y a une des inquiétudes qui transparaît, qui est, au vu de ce phénomène symbiotique humain-machine, quel impact ces technologies de la mémoire ont-ils sur le cerveau, sur l'être humain, sur la mémoire naturelle? Et ceci, d'autant plus que notre culture valorise d'autant moins le par cœur, et que donc on est de moins en moins enclin finalement à apprendre de façon, apprendre tel qu'on pouvait le faire par le passé, par exemple, on pouvait apprendre des récitations, des poèmes. On est de moins en moins enclin par notre culture à le faire, et on est de plus en plus par contre incité à rechercher l'information, et donc la problématique se situe plus au niveau du coup de la capacité à indexer cette pléthore d'informations pour être en mesure de la retrouver, de façon la plus pertinente, la plus rapide possible, pour qu'on ait quand même aussi un maximum de confort pour alléger cette charge cognitive, cette charge mentale dont j'ai parlé plus tôt. Donc il y a des études, notamment dans le domaine des neurosciences, qui ont montré la plasticité du cerveau qui se manifeste de différentes manières. Les chauffeurs de taxi londoniens ont un hippocampe plus grand à l'issue d'une formation où ils auraient dû apprendre le nom des rues de 25 000 rues et des milliers d'attractions touristiques. L'hippocampe, elle est nécessaire tant pour la mémoire à long terme que pour la navigation spatiale. Inversement, l'utilisation du GPS, donc cet outil de géolocalisation, a un impact négatif sur l'hippocampe. La navigation par satellite éteindrait la partie de notre cerveau associée à la mémoire qui, du coup, s'atrophie. Donc, les nouvelles technologies ont réellement un impact sur notre cerveau, sur certaines parties de notre cerveau qui sont considérées comme liées directement à la mémoire, mais il est probable que d'autres zones du cerveau, faisant appel à des capacités qui, du coup, elles, sont peut-être plus sollicitées comme des capacités de synthèse, il est probable que ces zones du cerveau soient, en revanche, plus sollicitées. On peut dire que, au regard de cette analyse de l'impact, il y a un impact qui est indirect, en quelque sorte, qui est lié au fait que la mémoire, elle est affectée notamment par les troubles de l'attention que ces nouvelles technologies peuvent entraîner. Il y a des chercheurs qui ont montré que le simple fait d'avoir un smartphone sur la table, même si celui-ci était éteint, entraînait des troubles de l'attention, parce que en fait, on est inconsciemment en attente de notifications. Et que du fait donc que notre attention, elle est en quelque sorte troublée, et bien donc notre mémoire qui demande de faire un effort de concentration et d'attention soutenue sur un sujet particulier, notre mémoire du coup elle-même est perturbée. On peut dire que ça, c'est une étude qui concerne le smartphone, mais à l'avenir, avec par exemple les montres connectées, ces troubles de l'attention, ces déficits d'attention pourraient s'exacerber, puisque les montres connectées déportent les notifications du smartphone et elles sont souvent sur le mode vibreur, donc c'est autant de dérangements potentiels à venir et donc d'interruptions.
Les nouvelles technologies peuvent donc avoir un effet délétère sur notre mémoire, et nous allons précisément nous demander dans la troisième partie de ce podcast si nous ne risquons pas d'altérer sérieusement notre mémoire naturelle. Merci Hélène Janin, et à bientôt pour un nouveau podcast.